Il est l'heure maintenant de retrouver notre rendez-vous du libraire avec aujourd'hui autour de la table dans notre studio de CFM Montauban, Nadège Loublier, Nathalie Pichon, Sophie Isaac et Philippe Bernadou. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être là pour nous donner, comme chaque mardi, quelques idées de lecture et nous raconter un petit peu la vie du livre. On commence par ça, d'ailleurs, une vie du livre.
Oui, une petite brève. On a appris la semaine dernière que Amazon, après avoir mis à mal le réseau des librairies indépendantes aux États-Unis et ailleurs, elle projette d'ouvrir 400 librairies physiques aux USA, donc. La boucle sera comme ça bouclée, ils seront éditeurs, distributeurs, libraires, le circuit parfaitement verrouillé. Vous avez aimé manger McDonald's, vous allez adorer penser Amazon.
Et on commence par une première idée de lecture avec Nadège Loublier de la librairie La Femme Renard.
Oui, aujourd'hui je vais vous parler de Psychico, de Paul Nirvanas. Ce texte a une particularité, car il a été écrit et publié une première fois en Grèce en 1928. Il apparaît à un moment où les grands personnages tels que Sherlock Holmes, Hercule Poirot sont déjà bien connus en Europe, mais le roman policier est un genre inconnu en Grèce. Dans ce pays, encore rural et n'ayant pas connu la révolution industrielle, où la criminalité anémique se limite surtout aux crimes d'honneur, la littérature policière tarde à s'implanter. Psychico, dont le titre rappelle un quartier bourgeois d'Athènes, appartient à la préhistoire du roman policier grec. Ce texte fut écrit par un médecin de la marine de guerre devenu homme de lettres. Il appartenait à la sphère des écrivains journalistes et était loin d'être un inconnu en Grèce. Ce livre, donc Psychico, possède une autre particularité, qui tient plus à son scénario. Le jeune Nikos Molokantis, issu d'une famille très riche, a hérité de la fortune colossale de son père et emplit ses journées d'activités toutes les plus oisives les unes que les autres, et passe ses soirées à s'enivrer dans des fêtes. Mais il est aussi un gros lecteur de romans policiers et rêve de célébrité. C'est ainsi qu'il va s'intéresser à un fait divers, le meurtre d'une jeune femme dont le corps est retrouvé dans un terrain abandonné recouvert de pierres. L'idée saugrenue d'endosser la responsabilité de ce meurtre en inventant une histoire romantique d'amour déçu germe en lui. En effet, ce scénario d'un amant dont l'amour fou pour sa belle maîtresse le conduit au meurtre est très vite relayé par les journaux et la presse, fabrique un visage touchant mais controversé du suspect. Nikos vivra complètement le personnage qu'il a engendré. Il ira en prison, mais connaîtra aussi la réalité de la trahison de certains soi-disant amis qui devaient être témoins pour arrêter toute cette mascarade. En abordant le récit par cet angle, l'auteur construit une enquête policière où vient se greffer les codes du roman noir. En effet, il dépeint les travers d'une bourgeoisie sans but et prête à tout pour devenir la coqueluche d'un instant. Il met déjà en lumière la puissance de la presse qui a le pouvoir de faire et défaire l'opinion publique. La course au gros titre sans aucun scrupule. L'auteur dénonçait déjà à cette époque le jeu malsain de la célébrité, thème qui, je crois, est toujours d'une actualité criante et s'est même amplifié. Bref, ce livre, original et inattendu, publié chez Mirabeau, est à découvrir au plus vite.
Merci Nadège, et c'est à vous Philippe de nous proposer les vies multiples de Jeremiah Reynolds.
Et de Christian Garcin, l'auteur que nous avons l'honneur et le bonheur de recevoir ce vendredi. Et c'est un auteur de nouvelles, de textes très littéraires, mais tout de même on peut se demander si ce coup-ci il ne nous mène pas en bateau avec son incroyable histoire d'explorateur. Soyons sérieux, il y a autant de chances que Jeremiah Reynolds ait existé que, disons, que la Terre soit creuse, sous nos pieds, et habitée par de grands hommes tout de blanc vêtus. Ça, la Terre creuse, c'est la théorie de John Cliff Symes, individu avec lequel Reynolds s'acoquine pour monter une expédition au pôle sud. L'un pour trouver l'entrée du fameux monde souterrain, qui est au pôle sud, tout le monde le sait, l'autre dans l'idée d'organiser un gentil trafic de fourrures, de phoques, d'ours, etc. Leur bateau fait naufrage, et grâce à ça, Reynolds serait le premier homme à avoir posé le pied en Antarctique. On est en 1829, enfin il paraît. Sauvé par un bateau, à son tour victime d'une mutinerie, Reynolds est débarqué au Chili, en pleine guerre civile, où il devient colonel de la fraction des colons alliés aux Indiens Mapuche. Vous me suivez. Puis, colonel des Mapuche en guerre contre leurs anciens alliés. Bon, vous y croyez, vous ? Il rencontre un marin qui veut l'entraîner dans une aventureuse chasse à la baleine blanche au large de l'île Mocha, mais qui se fait assassiner promptement dans les ruelles de Valparaiso. Il revient aux États-Unis où il devient avocat et écrit le récit de son expédition au pôle, qui inspire les aventures d'Arthur Gordon Pym à Edgar Poe. Edgar Poe avec lequel il était entre-temps devenu ami. Bon, puis quoi encore ? Il écrit aussi le roman de la chasse à la baleine blanche qu'il n'a jamais faite, hein, qu'il intitule Mocha Dick, 11 ans avant le Moby Dick de Melville. Et aux dernières nouvelles, Mocha Dick existe. Il est publié en français aux éditions du Sonneur. Donc certainement, Jeremiah Reynolds a existé. Et Christian Garcin a rudement bien fait de le ressusciter dans ce livre mené au grand galop, aussi passionnant que spirituel. Et en corollaire, il est à craindre que finalement la terre soit creuse. Rémi, me semble que quelqu'un a frappé en dessous.
Un livre à mettre entre toutes les mains des conspirationnistes.
Oui. Les vies multiples de Jeremiah Reynolds de Christian Garcin est donc publié chez Stock.
Merci Philippe. Le rendez-vous du libraire, c'est chaque mardi un petit peu après 18h sur CFM aux alentours de 18h15. Et puis bien sûr, c'est quand vous le voulez sur cfmradio.fr. Sachez que vous retrouvez également toutes les références des ouvrages présentés par nos libraires sur leur site internet librairiemontauban.fr, librairie étant au pluriel. À vous, Nathalie Pichon.
Oui, je voudrais vous parler d'un livre de Céline Curiol, Les vieux ne pleurent jamais. L'héroïne de cette histoire, c'est Judith Hogan. 70 ans, veuve, réside à Brooklyn. Elle mène sa petite vie solitaire depuis le décès de son mari, survenu 2 ans plus tôt. Petite vie entrecoupée parfois des visites animées de sa nouvelle voisine, Janet. Celle-ci la convainc de partir en voyage organisé, visiter la fameuse usine de glace Ben & Jerry's. Autant vous dire que l'on est loin de Charlie et la chocolaterie. Judith est déphasée. Elle observe sans complaisance ses pères. Nous tire un portrait truculent de leur guide qui, tel une chieftaine scout, sermonne le premier petit vieux qui ne rentrerait pas dans le rang. Cette visite va tout de même déclencher chez notre senior l'envie de bouger. Il faut le dire, c'est surtout cette ancienne photographie retrouvée dans les pages de Voyage au bout de la nuit, roman qui accompagne tout le récit, qui va la pousser à repartir sur les traces de sa jeunesse en France. Que va retrouver la Française devenue une parfaite américaine ? Ce voyage qu'elle a repoussé si longtemps va lui permettre de retrouver l'homme qui figure sur cette photographie. Elle ne sait si elle y trouvera l'apaisement, le moyen d'effacer les regrets et la culpabilité d'un passé qu'elle a tenté de gommer pendant si longtemps. Ce retour aux sources signe aussi un rendez-vous, avec le temps qui passe, qui vous déforme le corps et les réflexes, sans changer pourtant l'essence de ce que vous êtes. Mais qu'est-ce qui nous définit ? Le regard des autres ? Le poids des ans ? Judith lutte contre tout cela. Elle est attachante, cette petite bonne femme qui n'en fait qu'à sa tête. Céline Curiol parle à travers son personnage de notre société, des relations humaines, non sans sarcasme, mais sans amertume, avec même beaucoup d'émotion et de compassion. Et je voudrais vous lire un premier extrait au moment où Judith s'interroge sur son retour en France. J'allais donc retourner dans mon pays. Le dernier voyage que j'y avais effectué, avec Herbe, remontait à une bonne douzaine d'années au moins. De ce pays, je ne connaissais plus grand-chose. J'en avais suivi à distance, un peu, les scandales politiques, les crises économiques, les réformes sociales. La France était restée pour moi une nation de paradoxes, discours d'un côté, agissement de l'autre, en décalage, voire en contradiction. On disait ne pas avoir d'argent, mais l'on épargnait à tour de bras. On disait tenir à la sécurité sociale, mais l'on conspuait les impôts, voire entubait le trésor public. On disait redouter le chômage, mais on comptait méticuleusement ses heures. On disait l'importance des syndicats, mais on acceptait leurs abus. On disait se battre pour l'égalité, mais on s'accommodait des injustices. On se disait tolérant, mais on cataloguait à chaque regard. On se disait démocratique, mais on ne votait plus. On se disait une société humaniste, mais on réfléchissait toujours stratégiquement à qui accorder ses bonnes grâces. On se disait original, mais on saccageait la première nouvelle idée venue. On se disait frondeur, mais on s'insurgeait contre les changements. J'exagérais un peu sans doute, Je ne vivais plus là-bas et devais m'échapper une part des réalités d'un pays qui me semblait néanmoins si versatile, parfois regorgeant d'ingénuité, de conviction, d'initiative. Puis soudain, n'exhibant plus que sa face sombre, son immobilisme, son pessimisme, son hypocrisie. Et un autre passage qui nous permettra de comprendre un peu mieux le titre de cet ouvrage « Les vieux ne pleurent jamais ». Après tout, nous vivions en Occident, où l'on bichonnait les vieux, à grand renfort de structures spécialisées, de divertissements élaborés et de ristournes commerciales. Et la retraite, et la sécurité sociale en France, qu'en faisais-je ? C'était un luxe par rapport à d'autres pays. Tout de même, les retraités sont pépères. Pépères ou mémères, ce devait être effectivement le mot qui convenait, puisque l'on nous donnait l'impression de fonctionner comme des demi-êtres. Certains comportements n'étaient plus concevables à notre échelle, plus compatibles avec notre âge, parce qu'en contradiction théorique avec la décroissance de notre vitalité. Le sexe, la drogue, la violence, la passion amoureuse, l'ambition, fini, niette, même en rêve. En revanche, nous revenait la sagesse et surtout, surtout, la modération. Petites habitudes, petites envies, petits besoins, petits gestes, un ramassis de petits bouts. Voilà ce que nous sommes aux yeux d'une société présomptueuse qui ne jure que par le neuf. On nous transformait en lilliputiens puisqu'il fallait tenir le moins de place possible, critiquer le moins possible les changements que les tenants du pouvoir s'évertuaient à faire rimer avec progrès. Et puis voyons, fallait pas se plaindre. On bouffait aux frais du contribuable. On vivait mieux que beaucoup d'autres. Ok, je te l'accorde, on est bien nourri, bien soigné. Mais au fond, tu sais ce que nos sociétés considèrent, qu'on est bon qu'à rester entre nous, comme les immigrés. Ils me regardaient interloqués. Et tu sais le pire ? Nos émotions n'existent pas. Pleurer, par exemple, puisqu'il ne nous arrive plus rien. Pourquoi pleurer ? C'est indécent, une vieille ou un vieux qui pleure. C'est moche, c'est honteux. Dans le train, en venant, j'ai vu cette femme, chic femme, un peu plus vieille que moi probablement, qui pleurait. Eh bien, comme tout le monde, je me suis sentie très mal à l'aise, pas attendrie du tout. Ma tirade devait dégager des relents de désespoir, et voyant la mine assombrie de ma belle-nièce, je décidai de m'en tenir à cela. Elle devait penser à Julien, à ce que l'âge lui avait infligé comme déconvenu, dont elle ne s'était jamais souciée jusqu'alors. « Enfin, faut pas exagérer, vous n'êtes pas si mal lotie, » s'insurgea-t-elle. Elle le constatait lors de ses ateliers d'écriture. Ils étaient peut-être moins fringants, mais ils avaient l'ego intact, ces étudiants du troisième âge. Pas si mal lotis, certes, mais hors circuit, obsolètes. Un petit ricanement m'avait échappé. Quoi qu'il en soit, ce dont il faut toujours se réjouir, Isle, à n'importe quel âge, c'est d'avoir simplement vécu. Ma nièce a laissé basculer sa tête en arrière, contemplant le désert du plafond. Voilà, qui vous donne une petite idée du ton du livre.
Les vieux ne pleurent jamais de Céline Curiol. Merci Nathalie, on passe à vos actualités, Philippe.
Alors au Grand Gadeau, demain mercredi, la compagnie des écrivains pour son rendez-vous mensuel alternativement à la Femme Renard et à la librairie Deloche. Donc demain à la librairie Deloche, Pierrette Bonnet présente ses coups de cœur en poésie à 17h30. Après-demain jeudi, c'est la veillée poétique proposée par Lambélie à 17h30 aussi, toujours à la librairie de Loche, où comme vous le savez, vous pouvez venir dire vos poèmes ou les poèmes que vous aimez, ou venir simplement les écouter. Et comme je vous le disais, vendredi 19 février à 17h30, ne manquez pas Christian Garcin, qui viendra présenter les vies multiples de Jérémia Reynolds.
Nadège ?
Nous, le 20, nous serons présentes donc à l'ancien collège à partir de 15h. Où l'association des AVF a fait venir Muriel Magellan, qui parlera de son dernier roman, Les Indociles.
Et vous, Nadège, l'oubliez, c'est la librairie La Femme Renard.
Eh oui.
Muriel Magellan a été l'auteur du mois de janvier.
Merci à vous et rendez-vous mardi prochain pour de nouvelles aventures littéraires à mardi.
Au revoir.
Au revoir.